Steve Mazeux, bonjour. Je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui pour parler de ton nouvel ouvrage chez Vrin, dans la collection Chemin philosophique, sur qu'est-ce que la folie. Alors, tu es maître de conférences, spécialisé de la philosophie et de la psychiatrie. Tu es au département de philosophie de l'Université Bordeaux-Montaigne et tu travailles comme chercheur associé au laboratoire SPAS, Sciences, Philosophie et Humanité. Alors, on se tutoie parce qu'en fait, on se connaît, parce que tu as la spécificité d'être un philosophe qui travaille au contact, tout proche, si je peux dire, des psychiatres. Et ton livre a cette spécificité de pouvoir parler aux philosophes, mais également aux psychiatres et au grand public, d'une notion importante qui est celle de la folie. Donc, mais justement, cette notion de la folie, quand on est psychiatre, on se dit, on aurait attendu comme titre, qu'est-ce que la folie, plutôt qu'est-ce que la maladie mentale ? Or, tu as bien pris le terme de la folie, terme qui, quand on enseigne aux étudiants en médecine, on a tendance à leur dire, mais mettez de côté ce terme qui est un terme grand public, connoté, et qu'il ne s'agit de ne plus utiliser. Alors, est-ce que ce choix a été fait intentionnellement d'utiliser ce terme spécifique de folie plutôt que de maladie mentale ?
Bien, merci beaucoup, merci pour l'invitation, Mola, et merci à Jean-Arthur d'accepter cette discussion, et c'est important justement de pouvoir discuter de cette question-là avec quelqu'un qui s'y connaît, qui travaille vraiment ces questions-là dans sa pratique, dans sa clinique. Et effectivement, c'était une gageure de départ pour moi. La folie, c'est une notion philosophique assez classique, d'une certaine manière. C'est une notion qu'on peut trouver dans des dissertations à l'agrégation de philosophie, dans les concours. On n'a jamais, pour l'instant, il n'y a jamais eu de dissertation portant sur qu'est-ce qu'un trouble mental ou qu'est-ce qu'une maladie mentale. Et en fait, c'est le point de départ hein, de cette belle collection Chemin philosophique. Qu'est-ce que quelque chose ? Et donc, le contrat consistait à essayer de s'interroger sur une notion définie, ici la folie, mais sans en faire l'histoire, sans se résumer à en présenter l'histoire. Hein, c'est vraiment le contrat de cette collection, mais d'essayer vraiment de la problématiser, de montrer ce qui est actuel. Or, l'une des questions que je me pose vraiment, et c'est ce qui amène à m'interroger aussi au contact des psychiatres, c'est est-ce qu'il y a une actualité pour cette notion de folie? Est-ce que c'est pas une notion un peu vieillotte dont on aurait raison de se débarrasser? Et du coup, j'ai été pris d'emblée dans un dilemme, ce qui fait que ce livre très court, il m'a fallu beaucoup de temps pour le concevoir et vraiment réussir à l'écrire, dans la mesure où je voulais éviter justement ce qui m'apparaissait comme deux risques fondamentaux pour moi en tant que philosophe. C'était d'un côté de trop concéder d'emblée aux psychiatres si je leur disais que la folie n'avait plus rien à voir et ne concernait plus la philosophie, mais que les psychiatres avaient fondamentalement raison en parlant de troubles mentaux, par exemple. Et de l'autre côté, je voulais aussi éviter le défaut qui est un défaut souvent commun des philosophes, qui est la position de surplomb, et qui consisterait à, du haut de leur réflexion, dire aux psychiatres ce que serait la folie en regard ou en retrait par rapport au savoir constitué des psychiatres, mais pas seulement des psychiatres, hein, aussi des psychologues, des psychanalystes. Et donc j'étais bloqué comme ça dans ces deux questions, qui sont des questions vraiment importantes, hein, juste pour bien illustrer cette difficulté. Si vous prenez par exemple un autre, je crois qu'il s'est pas encore sorti, mais si quelqu'un devait écrire un livre sur qu'est-ce que la vie ou qu'est-ce que le vivant, eh bien, dans la veine d'un Camp Guilhem ou d'un François Jacob, dire, ben voilà, on ne peut plus concevoir aujourd'hui de faire un exercice philosophique pour essayer de savoir ce que c'est que la vie, si on ne s'intéresse pas à la biologie moléculaire, si on ne s'intéresse pas à la théorie de l'évolution, etc. De la même manière, est-ce qu'on peut aujourd'hui faire un travail philosophique sur la folie sans réfléchir sur les textes constitués, les savoirs constitués autour de la psy. Et donc, vraiment, il y avait cette difficulté-là, et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans cet ouvrage, en partant d'abord d'une analyse de ce mot, qui est un mot très très ancien, la folie. Au départ, c'est l'image, hein, le fol, au Moyen-Âge, hein, la folie, ça envoie au ballon, hein, plein d'air. Donc, c'est d'un côté, ça va vers l'insignifiance, ce qui n'a pas de sens, ce qui est ridicule, ce qui est insignifiant. Et puis, c'est aussi ce qui est dangereux, ce qui risque d'exploser à tout moment. Et j'ai voulu montrer que, à travers toutes ces images très, très anciennes de la folie, eh bien, se développaient des thèmes et des interrogations constantes qui intéressaient d'abord au premier chef, évidemment, les philosophes, mais aussi très vite les médecins. Et c'est pour ça, hein, pour terminer sur ce point-là, que je pars exprès d'une citation de Voltaire, citation presque choquante, hein, puisque Voltaire, auteur du XVIIIe siècle, écrit que la folie, pour lui, c'est une maladie des organes du cerveau. Donc très clairement, il a une conception déjà extrêmement médicale de la folie, Ce qui montre que la question du réductionnisme, de la folie à la maladie, n'est pas du tout une question d'aujourd'hui. C'est une question qui hante l'histoire de la philosophie depuis très longtemps.
Oui, très belle citation de Voltaire et qui conclura aussi le livre. On y reviendra à la fin. Effectivement, la spécificité de ton travail, c'est de pouvoir s'adresser pas uniquement aux philosophes, mais également aux psychiatres et au grand public pour emmener des éléments. Et tu vas le faire autour de trois thèmes dans ce livre que tu appelles l'idéologie, l'expérience et la maladie avec son explication. Sur le premier thème, sur l'idéologie, justement sur ce pas de côté que tu nous emmènes pour le psychiatre, généralement, tu prends la figure de Foucault et généralement, un psychiatre prendrait Foucault comme... au mieux un antipsychiatre, au pire quelqu'un qui n'aurait pas emmené grand-chose à la psychiatrie, mais en fait, du fait d'une pensée qui serait la folie, ça serait un jugement de valeur sur une déviance par l'application d'un biopouvoir, et finalement cette maladie n'existerait pas vraiment. Et en fait, tu nous montres que c'est un peu plus complexe que cela, et que Foucault a développé une pensée un peu plus complexe et qui peut emmener des éléments pour la psychiatrie actuellement, quoi.
Alors, effectivement, Foucault était, d'une certaine manière, pour ce petit livre, et surtout un livre destiné à des étudiants de philosophie, un auteur attendu, presque inévitable, d'une certaine manière. C'était à la fois une évidence de le mobiliser, et en même temps, je pense qu'il était tout à fait nécessaire pour, justement, la problématique que je voulais développer, dans la mesure où personne mieux que Foucault a réfléchi à ce thème de la médicalisation de la folie qui se serait opéré à un moment historique très précis et qui aurait amené cette question qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal à penser la folie autrement que sous l'abord de la pathologie, que sous l'abord de la médecine et de la maladie. Et donc, Foucault est vraiment, reste aujourd'hui un auteur central, non pas seulement parce qu'il a écrit un très beau livre, Histoire de la folie à l'âge classique, qui est un classique du corpus philosophique aujourd'hui, mais aussi parce qu'en fait, c'est celui qui vise le mieux le problème central qui reste encore aujourd'hui le nôtre. Alors, Foucault, je l'aborde donc dans la première partie de l'ouvrage, que j'appelle la folie comme idéologie, sous deux aspects différents. Dans la mesure où l'une des grandes thèses qui se pose par rapport à la folie, c'est est-ce que la folie, ça existe ? Ce que j'appelle la thèse de l'inexistence de la folie, qui a été défendue effectivement par tout un courant d'antipsychiatres qui se met en place à partir de la fin des années 60. Alors, le rapport de Foucault à l'antipsychiatrie est compliqué. Lui-même se reconnaîtra jamais tout à fait dans l'antipsychiatrie. Le mot est inventé en 1967 par David Cooper, un psychiatre anglais. Foucault se rattache dans ce courant-là, mais gardera toujours une distance précautionneuse. Et dans l'ouvrage, dans la partie commentaire, hein, j'ai été content de proposer un texte peu connu de Foucault, une conférence qu'il donne à Tunis, justement en 1967, où Foucault essaie de clarifier sa pensée par rapport à la folie, où on voit justement qu'il ne la réduit pas à une pure construction sociale, qu'il y a quelque chose de très compliqué chez lui dans ce qu'il entend par folie. Et donc, en cela, il reste vraiment un auteur central. Il n'empêche qu'on peut aussi en discuter certaines limites. Hein. Y a un auteur que j'aime beaucoup, que je travaille actuellement, qui est Peter Sedgwick. Et Peter Sedgwick, un psychologue anglais, dans un beau livre, j'en parle pas dans le livre, mais c'est un livre vraiment important de 1982 qui s'appelle Psychopolitics, dit bah voilà, Foucault écrit un livre très très brillant. Il y a quelque chose seulement qui est étrange quand on lit l'histoire de la folie à l'âge classique, c'est que jamais Foucault, alors il dit ça en anglais, mais je traduis comme ça à la volée, hein, jamais Foucault ne laisse la possibilité à son adversaire de marquer le moindre point. C'est-à-dire qu'en fait, Foucault considère justement la naissance du discours psychiatrique comme un discours idéologique, comme un discours qui se plaque sur et qui ne peut pas, donc qui est tout sauf quelque chose qui aurait trait à de l'empirisme, où bah voilà, les psychiatres, sur certains troubles, sur certains domaines de la maladie, pourraient avoir raison et pourraient s'être trompés ailleurs. Non, Foucault refuse cela d'emblée, ce qui donne à sa thèse un caractère très très général et qui peut-être peut être critiqué à ce titre, c'est-à-dire qu'elle est peut-être trop englobante d'une certaine manière, mais il l'assumait tout à fait, puisque pour lui, sa thèse avait une dimension vraiment ethnologique, sinon anthropologique.
Et pourtant, dans le texte que tu as choisi, il fait la comparaison entre la folie et la mort, comme donc la mort, on peut pas dire que c'est qu'une construction sociale, c'est quand même un fait biologique, mais il prend cette analogie qui est assez surprenante, du coup, pour essayer de penser Mais la médicalisation de la folie.
C'est pour ça que le texte qui vient d'une conférence de Foucault, hein, c'était un inédit, c'est un texte qui a été publié il y a seulement quelques années, et c'est un texte tout à fait étonnant, parce que justement, Foucault compare la folie à la mort, et il y a une belle expression pour dire ça, la mort, s'il y a bien un fait biologique contraignant, c'est la mort. Et donc personne n'aurait l'idée de considérer la mort comme une construction sociale. Et donc là, on voit un texte vraiment où Foucault concède, comme on pourrait dire, énormément au naturalisme, mais en réalité, c'est pour mieux montrer ce dont il s'agit pour lui. Puisqu'en fait, sa thèse... Alors, ce qui est compliqué chez Foucault, et ce qui est tout à son honneur, c'est que sa pensée a beaucoup évolué. Histoire de la folie, âge classique, hein, c'est sa thèse de philosophie, qu'il transforme ensuite en livre. Il écrivra d'abord une préface qui aménage un petit peu ce qui est dit, et puis reviendra bien plus tard, ensuite, de manière critique, sur ses écrits de jeunesse. Et donc, la pensée de Foucault, c'est vraiment une pensée qui évolue considérablement, depuis l'histoire de la folie jusqu'à ses cours au Collège de France. Et Foucault n'a pas comme ça une... C'est pas quelqu'un de systématique, c'est quelqu'un qui a cherché à chaque fois à ajuster ses thèses. Et ce qui est intéressant dans la conférence de Tunis, dont je cite un extrait, c'est que c'est un moment où justement où Foucault essaie d'ajuster un petit peu sa thèse en s'appuyant plutôt sur l'anthropologie et où il présente la folie comme une fonction générale de partage. Il dit voilà, c'est une fonction générale de partage qui est présente dans toutes les sociétés. Et là on a un Foucault extrêmement fin et intéressant dans la mesure où ça lui permet de rejeter deux thèses opposées
qui sont
d'un côté la thèse médicale. Ce serait de dire la folie, ça n'est rien d'autre que de la maladie. Donc là, il dit non, en fait, bien avant qu'il y ait de la médecine, il y avait déjà ce qu'on considérait comme des fous dans toutes les sociétés. Et donc, c'est quelque chose qui est différent simplement de la médicalisation sous une forme ou une autre. Comme il dit, la médicalisation, alors le terme est compliqué, il dit c'est une forme de codage historique particulier, peut-être contingent de la folie. Donc il y a la thèse médicale, mais Foucault, de manière intéressante aussi, prend ses distances avec une autre thèse tout aussi importante à son époque, qui est ce qu'il appelle la thèse sociologique, qui consiste simplement à rabattre la folie à de la déviance. Il dit non, dans toutes les sociétés, on a toujours su distinguer le fou du simple déviant, et ce qui se joue, c'est autre chose. Il y a tout un nouage très compliqué. Alors, chez Foucault, ça tient sur les normes de rationalité, sur les rapports au comportement, sur beaucoup aussi le rapport à la sexualité, à ce qui est attendu des autres, etc. Mais voilà, donc Foucault essaie de trouver un équilibre entre quelque chose qui serait une pure construction sociale. Ça ne l'est pas, de même que la mort n'est pas une construction sociale. Mais Foucault insiste, et ça, il s'inscrit dans beaucoup de travaux qui sont réalisés à son époque, hein, sur la mort, pour dire la mort, ce n'est pas non plus un pur fait biologique, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement symbolique et extrêmement codifié dans toutes les sociétés humaines, depuis qu'il existe des rites funéraires. Et en cela, on aurait tort de ne voir dans la mort qu'un fait biologique brut. Eh bien, la folie, c'est la même chose. Il y a quelque chose d'extrêmement épais dans ce concept. Donc c'est pour ça que Foucault effectivement était important et reste important aujourd'hui, pourvu qu'on le saisisse bien et qu'on ne le rabatte pas à la thèse massive de ce que j'appelle l'inexistence de la folie, comme d'autres ont pu le défendre.
D'ailleurs, c'est l'originalité de Chemin philosophique d'être une collection où il y a un texte introductif et puis ensuite deux extraits de textes que tu vas commenter, qui sera commenté notamment. Là, c'était le texte de Michel Foucault, puis un texte de Jérôme Wakefield, mais on y reviendra plus tard. Et ce commentaire de texte permet d'éclairer la pensée à partir d'un exemple spécifique de l'écriture de l'auteur. Ensuite, l'idée, c'est à partir de la folie, la deuxième partie que tu abordes, après l'idéologie, c'est celle de l'expérience. Et d'ailleurs, c'est un champ qui est très important. On le voit dans la clinique de plus en plus, les patientes reported.com, le fait que ça soit aux patients de dire ce que c'est que l'expérience de la maladie, est de plus en plus importante. Et des fois, on peut être amené à se dire que ça aboutit à un relativisme de la subjectivité où chaque personne exprimant une maladie aurait son point de vue sur cette maladie. Et ça serait le seul légitime à parler au nom de sa maladie. Pourtant, tu nous montres que la psychiatrie a développé une méthodologie, ou en tout cas, c'est articulé avec certains champs méthodologiques, qui a été très rigoureuse pour essayer d'aborder l'expérience de la folie. Et tu prends notamment deux champs importants, qui est celui de la psychanalyse et de la phénoménologie.
Oui. Alors, la deuxième partie, donc, en fait, pour essayer de faire le tour de cette question, qu'est-ce que la folie ? le but au départ était de problématiser un petit peu la question. Et si j'arrive à cette tripartition entre la folie comme idéologie, la folie comme expérience et la folie comme maladie, je la tiens à tout un développement préliminaire qui consiste à montrer que depuis l'Antiquité, il y a toujours eu une proximité étrange entre le fou et le sage. D'un côté, le fait que souvent les plus fous sont aussi les plus sages. On trouve ça, c'est un thème qu'on trouve dans la littérature, évidemment, mais on la trouve aussi dans la religion, hein, Divine Madness, la folle sagesse, la folie de la croix, etc. Donc c'est quelque chose qui est très prégnant, non seulement dans les thèmes littéraires et religieux, mais aussi en philosophie. Hein, Montaigne, qui dit qu'il y a un tout petit tour de cheville qui sépare les pensées les plus éthérées du grand philosophe des pensées les plus folles. Et donc, c'est un thème classique, mais de l'autre côté, le fou ressemble au sage, et pourtant, ils sont essentiellement différents, puisque le sage, c'est celui qui est autonome, qui sait ce qu'il dit, alors que le fou sombre, comme je l'écris un moment, dans l'hétéronomie, hein, c'est le désastre de l'hétéronomie, alors que c'est le royaume de l'autonomie qui est réservé aux sages. Donc ça, c'est la deuxième différence qui est importante. Et ce qui articule ces deux noyaux vraiment de problématisation, c'est la troisième donnée qui est vraiment importante, c'est le fait que la sagesse est directement rattachée historiquement au développement du logos, et que tout le drame, d'une certaine manière, hein, c'est ce que reprochera par exemple Derrida à Foucault, c'est que c'est presque inconcevable de connaître la folie, puisque ça voudrait dire d'utiliser le logos pour essayer d'appréhender ce qui lui résiste fondamentalement. Et donc, il y a quelque chose qui résiste à la connaissance de la folie, puisqu'on ne peut connaître la folie que de l'extérieur, ou en la ramenant au domaine de la raison, de dialoguer avec la folie, c'est ramener la folie au dialogue, au logos de la raison, et donc c'est d'une certaine manière la dénaturer. Et donc, ce problème-là, c'est ce qui m'amène à articuler donc les trois thème que tu viens d'évoquer, hein. Premier thème de l'idéologie, le fou c'est l'autre, donc de dire chez Foucault, la folie c'est quoi? C'est la déraison, la pure déraison, et c'est quelque chose qui émerge à un moment de l'histoire de la philosophie, à l'époque cartésienne, où on considère que le cogito est une activité de pensée qui ne peut pas imaginer, ne peut pas concevoir la folie dans son développement même. Hein, c'est « Mais quoi, ce sont des fous de, » de la première méditation de Descartes. Et puis, le deuxième grand thème, on y vient, c'est le thème de l'expérience. Donc, ce n'est pas « le fou, c'est l'autre », c'est, pour citer Rimbaud, « je est un autre ». C'est-à-dire, est-ce que, du coup, c'est possible de faire une expérience de la folie? Qu'est-ce que c'est que de faire l'expérience de la folie? Est-ce qu'on peut la mettre en mots? Alors, sans doute, ceux qui souffrent, hein, puisque, encore une fois, si on évacue ou on fait attention de ne pas rester dans le prisme littéraire ou aujourd'hui on dirait cinématographique de la folie, mais de prendre la folie au sérieux dans ce qu'elle amène de souffrance. Ça a été vraiment quelque chose qui était important pour moi dans ce livre, de prendre toujours la folie au sérieux et pas juste comme un thème de réflexion philosophique. Cette souffrance d'expérience qu'est la folie, alors certains ont essayé de la mettre en mots. Je cite le livre de Blanchot, hein, La folie du jour. Et puis, je rappelle surtout certaines coordonnées importantes d'un point de vue historique. C'est la naissance de la psychanalyse à toute fin du 19e siècle et la naissance de la psychiatrie phénoménologique au début du 20e siècle. Deux discours qui cherchent une autre voie que la psychiatrie classique, que la psychiatrie aliéniste classique. Et cette autre voie qu'ils proposent a ceci de très, très particulier, qu'elle donne une énorme place à la subjectivité de l'expérience des patients. Ce qui est vraiment neuf, mon sens, je ne suis pas le premier à dire ça, mais qui reste extrêmement important dans l'histoire récente de la psychopathologie, avec la phénoménologie d'un côté et la psychanalyse de l'autre, c'est de ne pas réduire des comportements à juste des faits insensés qu'on pourrait objectiver, mais de prendre de faire très très attention à la matière même de l'expérience, du vécu, et d'essayer de voir quels sont les ressorts thérapeutiques aussi qu'on peut trouver à partir de ça. Donc ça, cette expérience, c'est quelque chose qui est important à la fin du 19e siècle, 20e siècle, et qui est lié aussi avec tout un bouleversement sur le rapport à la subjectivité et à l'émergence de l'individualisme de manière générale.
Et justement, c'est la subjectivité ou les conditions de possibilité d'une expérience subjective dans la folie que la psychanalyse et la phénoménologie abordent, quoi.
Alors ça, c'est d'une certaine manière l'un des trous noirs ou l'une des taches aveugles, on dirait, de l'histoire de la psychiatrie. C'est que pendant très longtemps, justement, on ne savait pas ce que c'était l'expérience des fous, simplement parce qu'on ne cherchait pas à le savoir. C'est ce qui a d'ailleurs été un peu reproché à Foucault. Foucault lui-même a fait son mea culpa là-dessus. Toute l'histoire de la folie à l'âge classique de Foucault est centrée sur le savoir des médecins sur les patients. Et il y a très, très peu de recherche d'informations, même chez Foucault, sur ce que c'était que le vécu des patients dans les asiles au 19e siècle, alors que les textes existaient déjà. Quelqu'un qui, comme Foucault, passait beaucoup de temps à la BNF, aurait pu trouver, il y avait déjà des textes qui avaient été écrits, c'était disponible, mais il a fallu très très longtemps pour que les historiens commencent à se rendre compte qu'il pouvait y avoir une histoire aussi à écrire du point de vue des patients, et pas seulement du point de vue des médecins, et que c'est quelque chose qui apportait un éclairage très très différent à ce que c'est que la folie. Et bizarrement, cet éclairage ne va pas forcément du côté de, on va dire, la doxa antipsychiatrique, qui consisterait à dire, voilà, c'est une expérience singulière, et la folie, et le savoir médical aurait tort d'essayer de la codifier pour essayer de résoudre quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience singulière. Non, non, au contraire, si on rentre dans ces textes-là, on voit déjà beaucoup de souffrances. Et puis on voit quand même que toute cette question de l'expérience était documenté, même si les historiens s'y intéresseront, comme je l'ai dit, très tardivement. Hein, c'est seulement à partir des années 70 que les historiens commencent à s'intéresser à cette expérience en première personne dans les hôpitaux. Même si en réalité, hein, ça commence évidemment déjà avec la psychanalyse, puisque là on a des pathobiographies très très longues et très très détaillées. Et puis ça commence aussi, je l'évoque un petit peu, par tout l'intérêt qu'il y a pour les œuvres des patients. Pas seulement pour les grandes œuvres du génie, ce qui intéresse surtout Foucault, par exemple, dans l'histoire de la folie, donc les grands artistes devenus fous, Artaud, voilà, Nerval, etc. Mais ce qu'on va appeler l'art brut, c'est-à-dire des patients lambda des hôpitaux psychiatriques qui produisent quelque chose mais qu'on ne sait pas, qui est étrange, mais qui est beau, qui est très singulier. Et on va s'y intéresser au départ comme un document clinique. Et puis, bientôt, bah, ça va s'affranchir de cette dépendance médicale et ça va devenir des œuvres en tant que telles. Hein. Il y a aujourd'hui de très, très beaux musées d'art brut à Lausanne ou à Villeneuve-d'Ascq ou pas loin ici, à Bègle, où on peut voir donc, de l'art brut ou de l'art franc, c'est-à-dire quelque chose qui sort des canons académiques et qui est l'expression de singularité, mais qui n'est pas forcément non plus à réduire à l'expression de la maladie. Donc il y a quelque chose. Et ça fait partie aussi d'une forme de subjectivité de la folie et qui commence à être questionnée, à être interrogée au début du XXe siècle là aussi.
Et oui, cette dimension de l'expressivité de la folie dans l'art est importante et également ces conditions de possibilité d'émergence grâce à l'abord méthodologique de la phénoménologie de la psychanalyse qui soulève du coup l'enjeu de qu'est-ce que ça veut dire comprendre. Un fou.
Absolument.
Et comment on peut prendre avec et partager une expérience de l'altérité malgré tout, quoi.
Alors c'est vrai, je l'ai pas développé là dans ce livre là mais l'une des dichotomies vraiment importantes qu'on tient de Jaspers, c'est l'opposition entre expliquer un comportement et comprendre un comportement. Expliquer, ça renvoie plutôt du côté des causes. Comprendre, ça renvoie plutôt du côté des raisons. Quelles sont les raisons que j'ai de sauter d'un pont, de tuer quelqu'un, eh bien, on peut en donner des raisons ou on peut l'expliquer par trop d'alcool ou par un dérangement mental, etc. Et donc, ce rapport entre les causes et les raisons, c'est quelque chose qui va être au centre de toutes les interrogations autour de quelqu'un qui devient fou, depuis Aristote, hein, c'est pas nouveau, mais c'est aussi quelque chose qui se pose à nous-mêmes. Qu'est-ce qui m'amène à faire ce que je fais? Et pas forcément quand ce sont des actes extraordinaires qui sortent de la norme. Donc c'est une question philosophique très importante et qui renvoie dans l'histoire de la psychiatrie à la vieille, au vieux partage, au vieux dualisme entre l'âme et le corps. Est-ce que les maladies mentales, ce sont des maladies de l'âme? Est-ce que ce sont des maladies du cerveau? Justement, c'est pour ça qu'il était important pour moi de partir de Voltaire, qui, pour montrer que cette question-là était déjà tout à fait centrale il y a bien longtemps.
On va essayer de revenir sur cette dualité, mais du coup, cette dualité, déjà comprendre, expliquer, nous emmène à la troisième partie de ton ouvrage sur la maladie, et notamment toute une partie sur les modèles animaux, et qui serait censée nous permettre de mieux expliquer, si on prend cette dichotomie, et plutôt que comprendre, mieux expliquer les maladies mentales. Et là, dans la communauté psychiatrique, on peut dire que c'est assez dichotomisé, où d'un côté, il y a les psychiatres plutôt universitaire qui aurait une a priori plutôt positif au modèle animal. On encourage même les candidats aux filières universitaires à faire de la recherche en neurosciences et les recherches les plus intéressantes seraient du côté des modèles animaux. Et d'un autre côté, une communauté de psychiatres plus cliniciens qui dirait que ces modèles animaux finalement n'apportent rien et que les animaux ne peuvent pas être fous parce qu'ils n'ont pas le langage. Et donc tu emmènes une voie plus nuancée par rapport à cette approche des modèles animaux pour expliquer la folie, chose assez étonnante au départ de penser que les animaux pourraient être des bons modèles pour comprendre le fait anthropologique assez spécifique et la folie humaine, quoi.
Oui. Alors il y a deux choses. Alors la question de l'animal c'est posée à moi dans cette troisième partie. Non pas directement pour la question des modèles animaux, qui sont vraiment une question centrale aujourd'hui dans l'expérimentation. Je suis dans un projet de recherche consacré à l'expérimentation animale, donc c'est vraiment une question, comme tu le dis, très importante et décisive aujourd'hui, surtout qui soulève des questions éthiques, en plus, sur le fait de faire souffrir des animaux qu'on pratique des expériences sur eux. Et donc, la question, qui est une question scientifique de... Il y a la question morale, est-ce qu'on peut utiliser des animaux pour faire de l'expérimentation médicale? Mais il y a une question scientifique, c'est quoi la validité des modèles animaux en psychiatrie? Alors j'en parle un petit peu, parce que c'est une question qui est complexe, technique, mais c'est pas l'objet d'un livre de philosophie. Ce qui m'intéressait ici, en parlant des animaux, c'était pour ce qui m'a semblé être, en fait, un problème décisif aujourd'hui quand on essaie de réfléchir sur la folie. Ça m'est apparu assez tardivement, mais je me suis dit, bah voilà, si on veut... taper vraiment dans le toucher le nerf de ce que c'est, ce qui touche aux évidences de ce qu'on se représente aujourd'hui conceptuellement comme la folie, eh bien, on est obligé de passer par l'animal parce que l'animal est la figure philosophique aujourd'hui qui est en train de tout bouleverser, justement, notre rapport à la nature, notre rapport aux autres, etc. Et l'une des questions absolument centrales, beaucoup plus encore qu'elle peut se poser chez les psychiatres, qui peut se poser chez les philosophes, c'est de poser la question à des philosophes. Est-ce que vous pensez qu'un animal, ça peut être fou? Et donc, poser cette question-là, en fait, c'était très important pour moi parce qu'en fait, les philosophes, bizarrement, quelquefois aussi, peuvent avoir des préjugés ou ne pas avoir bien réfléchi à des questions ou être embarrassés par rapport à des tas de présupposés théoriques. Mais bien poser cette question-là amène forcément à clarifier beaucoup de choses, non seulement par rapport à l'animal, par rapport à ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, et surtout par rapport à ce que c'est que la folie. C'est que je pense que en fait, c'est l'une des meilleures questions qu'on peut poser aujourd'hui si on veut essayer de réfléchir sur ce que c'est que la folie. C'est est-ce que, demander à quelqu'un, est-ce que vous pensez qu'un animal, ça peut être fou? Pourquoi je pose ça? Parce que pendant longtemps, dans la tradition philosophique, c'était une sorte d'évidence fondamentale, incontestable, si vous voulez, incontestée, que seul l'homme pouvait être fou. D'abord, dans l'Antiquité, parce que seul l'homme possède le logos, et donc le fou, c'est celui qui a perdu l'usage de la raison, c'est la thèse de Foucault, hein, des raisons, donc il a perdu le logos, donc il n'y a que l'homme qui, d'une certaine manière, peut avoir le risque de perdre ce qui lui appartient en propre, la raison, donc seul l'homme peut devenir fou. Et puis, il y a une autre thèse qui s'est beaucoup affirmée, qui a été énormément défendue au XXe siècle, notamment dans les années 50-70, c'est l'idée que la folie, elle est une exclusivité humaine parce que seul l'humain a un rapport au langage, a accès au langage. Et donc, il y a l'idée que pour être fou, il faut avoir accès au symbolique, et pour avoir accès au symbolique, il faut avoir accès au langage. Et donc, partant du fait que l'animal n'a pas accès au langage, il n'a pas accès au symbolique, et donc il ne peut pas être fou. Et donc ça, c'était une évidence qui a été massive. Si vous prenez n'importe quel livre des années 50-60, eh bien vous trouverez ce que je résume sous la forme de la thèse de l'exclusivité humaine de la folie, qui consistait à dire non, d'accord, il peut y avoir des dérèglements de comportement chez des animaux qui se grattent, qui se suicident, qui font des tas de comportements, des singes qui deviennent fous, ou des éléphants qui tuent tous les gens autour d'eux, tout ça. Bon, il peut y avoir des dérèglements comme ça qu'on observe dans les zoos, mais ça ne mérite pas d'être appelé folie. Et donc la question que je pose, mais pourquoi? Sur quel argument, vraiment, quel argument philosophique permet de dire que ça ne mérite pas d'être appelé folie. Et ce que j'essaie simplement de montrer, c'est de dire, bah, si vous refusez ça, c'est extrêmement coûteux sur la représentation que vous faites, vous, en tant qu'être humain, est-ce qu'il n'y a pas une continuité ou pas. Et c'est problématique aussi pour des tas de raisons biologiques, évolutionnistes, etc. Hein, et ce qui est intéressant, hein, je termine là-dessus, c'est que, par exemple, si je pose cette question-là à de jeunes étudiants en master ou en doctorat, de jeunes étudiants en philosophie, eh bien, l'évidence a presque changé de côté. C'est-à-dire que cette vieille évidence philosophique s'est presque retournée, parce que la plupart maintenant des jeunes collègues diraient « Oui, bon, ça, en tout cas, ça ne me pose pas théoriquement de problème d'imaginer que les animaux puissent être fous et que le concept ne soit pas galvaudé en parlant de folie. » Une collègue, par exemple, Florence Burga, a écrit un livre récemment sur l'inconscient des animaux, et elle rappelle que même Freud était tout à fait prêt à prêter à certaines espèces animales un inconscient, donc prêt à prêter un inconscient aux animaux, donc c'était pas réservé aux humains, et s'il était prêt à prêter un inconscient aux animaux, bah, il était prêt à leur prêter aussi toutes sortes de maladies, de névroses, et qu'il pouvait y avoir, en ce sens, une psychopathologie animale, comme il y a une psychopathologie humaine. Et donc, il n'y aurait pas de spécificité humaine de la folie déjà chez Freud, et sans doute encore moins aujourd'hui avec tout le développement de l'éthologie, mais aussi des réflexions sur le cerveau et sur les neurosciences.
Donc on voit la place centrale des modèles animaux, mais avec souvent une promesse des neuroscientifiques qui serait que les avancées en psychiatrie, les progrès psychiatriques se feraient par les modèles animaux. On n'a pas suffisamment de connaissances sur les maladies mentales, par l'intermédiaire des modèles animaux, qui sont nécessaires pour mieux expliquer les troubles mentaux, on aboutirait à des nouvelles prises en charge. Et souvent, il y a cette, j'ose peut-être le mot, réduction qui est faite à penser que seuls les modèles animaux seraient la solution aux troubles psychiatriques, alors que tu montres que peut-être que le processus qui est en jeu dans les recherches sur les modèles animaux, c'est peut-être un moyen d'investigation empirique des fonctions neurocérébrales.
Absolument. C'est pas, donc, c'est une chose de dire que oui, peut-être les animaux peuvent être fous aussi, mais une fois qu'on concède ça, ça ne veut pas forcément dire que c'est la même folie, le même type de folie qui serait en partage. Il peut y avoir un abîme dans ce que ça signifie déjà au niveau de l'expérience et dans ce qui est en jeu dans le corps, dans la psyché, dans les processus cognitifs. Donc, une fois qu'on a concédé ça, le risque, effectivement, c'est le risque du réductionnisme et d'essayer d'appliquer, un peu comme dans Mon oncle d'Amérique de René, des modèles qui sont étudiés dans des laboratoires aux humains, comme si entre les deux, il n'y avait aucun changement. Donc, c'est une question qui reste tout à fait actuelle. Mon but ici n'était pas de la trancher, mais simplement de revenir en deçà de la question de la validité des modèles animaux, de cette question, encore une fois, qui me semble tout à fait fondamentale, qui est, à partir du moment où nous sommes des animaux comme les autres, qu'est-ce que ça signifie pour, dans le rapport qu'on a au questionnement de la folie. Et donc, c'est ce qui m'a amené à essayer de trouver cet équilibre dont on est parti, de dire, je veux pas, d'un côté, trop concéder trop vite aux psychiatres, mais je pense que le philosophe n'a plus le droit, aujourd'hui, depuis sa tour d'ivoire, d'essayer de proposer comme ça une théorie qui ne prendrait pas en compte sérieusement les savoirs constitués
et les fonctions mentales. Et d'ailleurs, le deuxième texte que tu vas prendre, c'est un texte de Jérôme Wakefield, qui est un philosophe très important pour la psychiatrie, puisqu'il a conceptualisé la harmful dysfunction analysis, donc la dysfonction préjudiciable, dans lequel la notion de fonction mentale, de fonction cérébrale, est fondamentale pour penser le trouble mental.
Alors, fonction mentale, oui, donc fonction biologique. Ouais. Alors, effectivement, donc Jerome Wakefield, qui est un philosophe contemporain, il vit à New York. C'est un auteur. Alors, autant Foucault est un auteur pour un petit livre, Qu'est-ce que la folie, un peu attendu, même si c'est un texte inédit que je produis ici. Autant Wakefield l'était moins, il est peu connu du public universitaire français, sinon du public spécialisé en philosophie de la psychiatrie. Pourtant, aux États-Unis, c'est un auteur très, très reconnu. C'est un des philosophes vraiment influents de ce qu'on appelle la philosophie de la psychiatrie, qui s'est développée considérablement depuis 30-40 ans. Et c'est quelqu'un qui a développé, effectivement, une définition du trouble mental qui est extrêmement discuté, qui a des forces, qui a des limites, mais qui est énormément commenté. Et je tenais à présenter ce texte, justement, en contrepartie du texte de Foucault, pour vraiment le mettre en regard. Les deux textes se mettent en regard, puisqu'en fait, ils se répondent presque textuellement. D'ailleurs, Wakefield a été un élève de Foucault, quand Foucault a enseigné aux États-Unis. Et ils se répondent vraiment, puisque Foucault, en gros, interroge notre évidence d'aujourd'hui, c'est de dire, les psychiatres d'aujourd'hui, c'est évident pour eux qu'on n'a plus le droit de parler de folie, parce que pour eux, il y a une sorte d'évidence à contester que la folie, c'est de la maladie. Et moi, mon travail de philosophe, c'est de déconstruire, si j'utilise un petit peu, c'est pas tout à fait la méthode de Foucault, ce serait plutôt celle de Derrida, mais ça revient un petit peu à ça. S'il s'agit d'en faire une archéologie plutôt de ce concept-là, de montrer que, en réalité, la médicalisation de la folie, est un fait historique contingent. Et en cela, il faut chercher quelque chose, peut-être une sorte d'expérience plus primitive de la folie ou un codage autre de la folie. Et donc, chez Foucault, ça veut dire qu'il faut faire justement une archéologie de la folie, que pour comprendre la notion de folie, il faut d'abord en faire l'histoire. C'est le principe méthodologique à la base même de sa thèse de philosophie. Wakefield, lui, ose d'une certaine manière le pari contraire en disant en fait peut-être qu'il y a une évidence qui est une évidence tout autre, c'est que les médecins, mais tout un chacun, on a toujours su un petit peu ce que c'était que de la folie et on en a toujours eu une conception un petit peu médicale en disant que il y a quelque chose qui va pas chez lui et de dire que cette évidence en fait, loin d'être constituée historiquement, serait presque anhistorique. Et il s'appuie lui aussi sur des textes extrêmement ancien pour dire, regardez chez Galien, regardez même chez Hippocrate, bien avant la constitution d'une discipline particulière qui sera l'aliénisme, ce qui donnera plus tard la psychiatrie, dès l'Antiquité, il y avait très fortement partagé l'intuition, très forte aussi, que la folie, c'est de la maladie. D'accord ? Et donc, Wakefield va dire, en fait, si on part de ce principe-là, le concept à clarifier, c'est pas le concept trop chargé en valeur, trop chargé en image, en métaphore de folie. Folie, le mot est très très chargé, parce que si on va faire des courses, on dit « Ah, j'ai fait des folies ». Donc vous voyez, c'est un terme commun qui renvoie pas forcément à la maladie, mais donc c'est tout ce qui est en excès, tout ce qui est de l'ordre du trop ou du trop peu. Tout. Donc la folie renvoie dans le langage ordinaire à des tas de métaphores très très chargées. C'est pareil en anglais avec le terme madness, c'est pareil dans beaucoup, beaucoup de langues. Et donc, un auteur comme Wakefield dirait il faut se focaliser non pas sur ce concept-là, mais sur un concept beaucoup plus précis, un concept qui serait beaucoup plus scientifique, comme le disent les psychiatres, qui serait le concept de trouble mental. Et il en propose effectivement une définition qui est très simple, qui consiste à dire un trouble pathologique de manière générale et un trouble mental de manière spécifique, c'est quoi ? C'est quelque chose qui est un dysfonctionnement préjudiciable. Harmful d'un côté, c'est préjudiciable, c'est-à-dire c'est pas bien d'avoir une maladie, c'est jamais bon.
Ça c'est en termes de valeur.
En termes de valeur, niveau des normes sociales et des normes personnelles, ça fait toujours souffrir. Et dysfunction, c'est-à-dire qu'on peut caractériser ce qui est en jeu dans le type de souffrance par l'existence d'un dysfonctionnement d'un certain ordre.
En termes factuels,
du coup. En termes factuels. Du coup, c'est quelque chose qui serait factuel, donc ce n'est pas une construction sociale. Et, par exemple, quelqu'un qui est dépressif, c'est quelqu'un qui manifeste des formes de dysfonctionnement dans le fonctionnement de cette émotion naturelle qui est la tristesse. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans la tristesse. C'est normal d'être très triste quand on a perdu quelqu'un, quand on a perdu son boulot, quand tout va mal. Si tout va bien et que vous pleurez sans raison, il y a peut-être quelque chose qui va pas. De même, si vous avez peur de la moindre chose, il y a peut-être quelque chose qui va pas, alors qu'on sait que biologiquement la peur remplit une fonction de survie. Donc il y a quelque chose. Alors chez Wakefield, il rattache ça pour le coup à toutes les connaissances biologiques qu'on peut avoir et notamment les connaissances évolutionnistes sur l'évolution de ce qu'on appelle des fonctions mentales pour dire peut-être que les maladies mentales, on peut les raccrocher à ça. C'est une thèse très audacieuse, qui est extrêmement discutée dans la littérature anglo-saxonne, mais je pense qu'elle est importante à mettre en regard avec la thèse de Foucault, parce que là, vous avez un philosophe qui accepte, comme le font les médecins, de dire, il faut faire le deuil de cette vieille notion de folie qui est trop chargée, dont on ne peut pas faire une bonne analyse conceptuelle, pour prendre au contraire un concept qui a le mérite, lui, de pouvoir être décomposé très clairement en ingrédients et qui peut, du coup, avoir une valeur heuristique et pour la réflexion philosophique et aussi peut-être pour le savoir médical. Puisque chez Wakefield, alors je ne l'aborde pas ici, hein, mais il y a cette conviction que si on arrive à bien définir le trouble mental en tant que philosophe, eh bien, on aide les psychiatres à mieux voir clair sur les limites du normal et du pathologique quand ils ne savent pas trop, par exemple, si un deuil... Quand est-ce qu'un deuil est normal? Quand est-ce qu'un deuil devient pathologique? Est-ce que c'est en termes de durée? Est-ce que c'est en termes d'intensité de la souffrance? Est-ce que... Non, c'est juste individuel ou c'est purement, pour le coup, culturel de fixer comme ça le fait qu'au bout d'un an, normalement, on doit moins souffrir d'un deuil à la date anniversaire de la mort de quelqu'un, etc. Donc ça soulève de nouvelles questions et ça permet, en tout cas, à défaut de résoudre une fois pour toutes des questions, d'interroger vraiment des critères cliniques tels qu'ils sont définis dans la psychiatrie d'aujourd'hui.
Et ingrédients qui sont connus actuellement ou qui sont en cours de découverte. La fonction n'est pas forcément identifiée. Il faut qu'il y ait suffisamment d'éléments pour se dire qu'elle pourrait être identifiée. Et pareil pour le préjudice, c'est des chemins en cours. D'ailleurs, c'est une approche du coup hybride et on voit que ce qui est en arrière-fond dans ton livre, c'est des dualités assez structurantes, en tout cas derrière la folie, la limite entre le dehors et dedans, où c'est est-ce qu'on isole la déviance, la distinction entre le fait et la valeur, c'est-à-dire entre l'âme et le corps, mais également entre la nature et la culture. Et dans ces dualités, dont on s'en dépêtre jamais complètement, tu nous dis que le concept de folie reste un concept embarrassant. Et c'est dans ce caractère embarrassant que tu fais de la folie un concept philosophique, mais également clinique, mais également... pour la société, très important, quoi. J'ai l'impression.
Absolument. C'est pour ça que je pense que ça reste un concept qui fait partie du bagage philosophique que les philosophes doivent continuer à mobiliser en évitant, comme j'espère suffisamment démontré, donc toute cette position de surplomb qui vraiment m'est insupportable, comme elle l'était à Canguilhem, quand elle est en réalité à tout philosophe qui considère qu'il y a qu'il faut tenir compte. Des connaissances empiriques dès lors que on s'aventure dans des sur les chemins spéculatifs, mais ce concept reste important quand même. D'ailleurs, il continue d'être mobilisé, hein, pas seulement par les philosophes, mais par les anthropologues, par les critiques littéraires, dans la mesure où utiliser le mot folie permet quand même de mettre à distance le champ de la médecine. Et par exemple, si on parle des mad studies ou si certains patients font des défilés qu'ils appellent les mad pride, c'est qu'ils prennent justement un terme qui est très chargé, très très négatif au départ, et qu'ils se le réapproprient en mettant à distance justement le discours médical. Donc tout l'intérêt aujourd'hui de la folie, c'est de continuer de tenir à distance le discours médical sans forcément chercher à avoir le dernier mot. Donc je pense que ce qui est important, c'est d'essayer d'établir, pour le coup, un dialogue non pas entre la folie et la sagesse, mais un dialogue entre les savoirs constitués, les savoirs psy constitués et, de l'autre côté, la philosophie. Et pour ça, ça demande, hein, comme je dis en conclusion, d'essayer de réfléchir à une autre question à côté de celle de qu'est-ce que la folie, c'est Où est la folie? Je la prends à un ami et sociologue, Nicolas Marquis, un sociologue belge, qui développe cette idée dans un bel article qui m'a beaucoup inspiré. Il dit, le but aussi, c'est de savoir où est la folie stabilisée, celle qui ne se voit pas forcément, celle qui n'est pas apparente, celle qui n'inonde pas tous les scénarios de films, de fiction, ou qui n'inonde pas la littérature, mais celle qui est trop commune pour apparaître. Et de la prendre là aussi au sérieux, en disant que c'est pas parce qu'elle est criante ou qu'elle n'est pas criante justement qu'elle n'existe pas. Et où est-ce qu'on la trouve? Qu'est-ce qui, comment on fait pour éviter là encore deux pentes du relativisme? D'un côté, le relativisme qui serait le relativisme culturel, de dire il n'y a pas de folie, il n'y a que des expériences singulières. De l'autre côté aussi, le relativisme d'une expérience qui consistera à dire qu'il n'y a que ceux qui souffrent, qui seraient en mesure d'avoir une vérité sur la chose et qu'on ne pourrait pas en dégager des constantes ou des variables. Et donc, cette question à la fin demande d'une certaine manière, c'est pour ça que je retourne exprès à Voltaire sous une forme sceptique, en disant personne ne sait vraiment ce qu'est la folie, et c'est d'une certaine manière, dans sa dimension critique, que ce concept aujourd'hui continue d'avoir une valeur pour le philosophe et pour la philosophie.
Eh bien, Steve Demazeu, merci d'avoir permis de prendre ce concept de folie au sérieux, comme vous nous avez dit, et surtout nous emmener avec finesse à penser la maladie mentale par l'intermédiaire de ce concept de folie. Donc, Steve Demazeu, merci pour ce livre.
Merci, Jean-Arthur.
Donc, aux éditions Vrin, Chemin philosophique, qu'est-ce que la folie ?
Merci.